RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
La suite des grandes gueules sur RMC, la radio RMC Story, la télé avec autour de la table pour démarrer la semaine le cheminot Bruno Poncet, l'avocat Charles Consigny et la prof d'histoire géo Barbara Lefebvre. Si vous habitez dans l'ouest de la France, le sud-ouest, j'ai envie de dire quasiment partout, vous l'avez constaté, les inondations sont là. D'ailleurs, 75% des départements sont touchés par cette crue qui s'annonce historique, qui n'est pas terminée car il va encore pleuvoir cette semaine. C'est un phénomène exceptionnel qui risque malheureusement de durer. Alors la Gironde et le Lot-et-Garonne sont particulièrement touchés ce matin. Ils ont été placés en alerte rouge pour crue. Il y a 21 départements placés en orange pour des risques d'avalanche, de pluie, inondation. Mais d'une manière générale, si on prend la carte de France, c'est 75% du territoire qui est touché par ces crues. Il n'arrête pas de pleuvoir depuis des semaines. Ça va continuer au moins jusqu'à mercredi, nous disent les météorologues. Donc appelez-nous au 3216 pour témoigner de ce que vous vivez, avec bien sûr des conséquences plus ou moins dramatiques pour les habitants. Une situation qui malheureusement devrait se reproduire puisque avec le dérèglement climatique on annonce des hivers beaucoup plus pluvieux et des tempêtes plus fortes qu'auparavant. Est-ce qu'il faut s'y habituer tout simplement, Bruno Poncet ?
Ben, je sais pas, mais en fait on est quand même un territoire qui est souvent marqué par des événements climatiques. Enfin, y a quand même des régions qui en ce moment sont en crue. Elles ont connu une tempête il y a pas si longtemps et l'été dernier elles avaient des forêts en feu. C'est vrai que là en ce moment la sèche, enfin on accumule. Mais après moi je sais pas parce que moi quand j'étais gamin on parlait tout le temps de la crue historique à Paris, on te faisait voir le zouave du pont de l'Alma qui avait été immergé sous l'eau. Moi à Vierzon à une époque le Cher avait rejoint le canal, donc là où mes grands-parents habitaient il y avait de la flotte quasiment à la rade de la maison. Donc c'est quand même des choses qui existent depuis des années en France. C'est peut-être l'accumulation qui fait qu'aujourd'hui on peut s'inquiéter. Mais après, quand on voit que les gens, ils ont continué le plan d'urbanisme a été complètement saccagé pour que les gens construisent à des endroits où c'est toujours inondable. Là, aujourd'hui, j'ai quand même vu un truc extraordinaire à la télé. J'ai vu que maintenant, ils mettent des espèces de gros boudins en plastique pour croire qu'ils vont arrêter la flotte qui va monter. Moi, on m'a toujours dit qu'on pouvait arrêter un feu par l'eau, mais qu'on pouvait jamais arrêter la flotte. Et j'ai bien peur que les crues, tu peux mettre des boudins comme tu veux. Là, il y a des images, là, que les gens peuvent voir quand ils regardent la télé avec de l'eau dans les rues. Mais malheureusement, je crois que ça va devenir notre quotidien. Peut-être pas tous les ans, mais régulièrement, c'est sûr.
Avec des champs inondés. Des maisons, mais des rues.
La question, c'est pas doit-on s'y habituer, c'est surtout on doit s'adapter. Enfin, je veux dire, Homo sapiens, oui. C'est ça, hein, ce qui a fait de lui un animal qui
a pu. Il va falloir survivre à ça.
Ben, oui. Il faut s'y adapter parce que c'est la cause de notre propre activité. Le réchauffement climatique, ça augmente la capacité de l'atmosphère à retenir l'humidité. Ce qui fait que les pluies, c'est pas tant la quantité qui tombe, c'est le fait que c'est des pluies extrêmement intenses et soudaines. Ce qui fait que des pluies très intenses et soudaines qui tombent par ailleurs sur des rivières canalisées, par exemple, c'est-à-dire des rivières sur lesquelles l'homme est beaucoup intervenu, ou sur des sols très imperméabilisé à cause de l'urbanisation ou sur des sols frappés par la sécheresse pendant l'été caniculaire, et ben tout ça ne peut conduire effectivement qu'à une fréquence d'inondation beaucoup plus importante. Donc maintenant, il y a une politique à conduire puisque c'est le résultat de l'action humaine. Alors bien sûr, c'est l'industrialisation, etc. Donc on va pas régler tout le problème de l'industrialisation. Néanmoins, on peut agir au moins sur les facteurs aggravants et notamment la question de l'artificialisation des sols, la question de des plans d'urbanisme.
L'entretien aussi des cours d'eau.
Mais excusez-moi, le fait que l'atmosphère retient davantage l'humidité qu'avant, ça on pourra rien y faire. C'est le réchauffement climatique, donc il va falloir s'adapter. Et je ne vois pas aujourd'hui que nous soyons gouvernés par des gens qui ont le souci qu'on s'adapte puisqu'il n'y a pas de vista.
Parce que c'est à long terme.
Les prochaines élections, ça, il s'agit de tous, ils veulent tous être candidats.
Oui, mais là,
régler les problèmes, il n'y en a pas.
Je pense qu'au municipal, tu vois, dans 4 semaines, c'est le premier tour. Dans toutes ces villes inondées ou menacées d'être inondées, ça va être un sujet quand même sur.
Mais c'est les mêmes qui acceptent des promoteurs immobiliers pour construire des lotissements, donc excuse-moi. Ça,
Charles.
Je suis d'accord avec ce que dit Barbara. Je pense qu'il faut. On doit prendre le sujet à bras le corps. et organiser les choses pour que ce type de d'inondations ne se produisent pas. Alors moi je suis pas spécialiste, je suis pas hydrologue, mais j'ai pas fait l'école des eaux et forêts, mais qui est une école très prestigieuse, hein, d'ailleurs. Il y a toute une science de ça. Je pense que
mon père était ingénieur des eaux et forêts.
C'est pas un petit domaine. Donc creuser des canaux, j'en sais rien. Organiser les choses déjà pour éviter que l'eau se répande trop quand il y a ce type de crue. Et ensuite, surtout ne pas construire en zone inondable. Moi, je comprends même pas comment dorment les gens qui savent que leur maison est dans une zone potentiellement inondable.
C'est ma
phobie.
S'ils ont acheté un lotissement, ils le savent pas, hélas.
Je pense que ils dorment pas.
Ouais. Mais là, c'est à l'échelle d'un département. La Gironde, par exemple, c'est quasiment un lac géant. C'est-à-dire que même si t'es pas en zone inondable,
faut vivre sur des buttes.
Oui, peut-être.
Sur des collines.
Alors, on va donner justement la parole à Gaël Musquet. Il est météorologue et spécialiste de la prévention des risques majeurs. Bonjour, Gaël. Merci d'être avec nous.
Oui, bonjour.
Tout d'abord, sur le côté exceptionnel de ce que nous vivons, ce chiffre que j'ai vu ce matin dans le Parisien, moi, m'a interpellé, 75 départements touchés par la crue.
Oui, complètement. On a un anticyclone qui n'est pas à sa place comme d'habitude et qui ramène comme une rivière atmosphérique cet air doux chargé d'humidité après une année 2025 record. Hein, troisième année la plus chaude mesurée depuis qu'on mesure les températures. Et donc, comme ça a été très bien dit juste avant, ben, quand vous avez des records de température, vous avez des records d'humidité, et quand les anticyclones, comme en ce moment, ne sont pas placés au bon endroit, ben, ça ramène cette humidité, cette pluie sous nos latitudes, avec pas juste la France, hein, l'Espagne, le Portugal, le Maroc, l'Algérie, touchés eux aussi par ces rivières atmosphériques qui ramènent énormément d'eau. On a d'ailleurs même les chiffres qui sont tombés sur le caractère exceptionnel de Niels, par exemple, cette tempête qui nous a touchés la semaine dernière. Les calculs ont été faits. Le réchauffement climatique est responsable pour 10% d'augmentation de la pluviométrie. Donc ça, les calculs ont été faits. On peut attribuer au réchauffement climatique plus 10% de pluviométrie et plus 5% de vitesse de vent. Donc j'ai envie d'être un peu provocateur ce matin, mais quand on regarde les politiques publiques qui ont marché dans notre pays, je prends le cas de la sécurité routière. Je n'étais pas né en 1972, on avait à peu près 18 000 morts sur les routes. Comment on a réussi à diviser presque par 6 en 5, plus de 50 ans les morts? Ben, il a fallu légiférer, on a respecté ces lois, il a fallu améliorer la conception donc des nouvelles technologies sur les véhicules. Il a fallu aussi des films, des ministères qui se sont emparés de ces sujets, l'industrie de la culture, des investissements dans l'éducation pour nos enfants. Donc il reviendrait à l'idée de personne aujourd'hui de revenir sur le port du casque, de la ceinture de sécurité, etc. Pourquoi je fais ce parallèle-là? On voit qu'il a fallu presque 2 générations, 5 décennies pour arriver à des résultats. Il y a toujours trop de morts, hein, attention, il faut persévérer, il faut continuer.
Aujourd'hui, on est autour de 3000 morts, mais c'est vrai que avec beaucoup plus de circulation, de voitures en circulation, par rapport aux années 70, on est passé de 17 000 à 3000.
En plus. Donc vous voyez qu'il a fallu tenir ce marathon.
Oui, mais Gaël, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui manque à la politique, notamment nationale?
Alors, aujourd'hui, pourquoi je fais ce parallèle-là? Ce qui manque, c'est que, si vous voulez, à chaque fois qu'on a un incident, on a un peu d'émotion. Je crois qu'on oublie et on voit pas forcément les progrès qui ont été réalisés jusqu'à présent. Des phénomènes comme ceux qu'on a vécu la semaine dernière, ce sont peut-être des dizaines de morts parfois. On a oublié, mais Valence, c'est 200 morts il y a 2 ans.
Il y a moins de victimes.
Exactement, il y a de moins en moins de victimes. En tout cas, en France, les politiques publiques d'alerte fonctionnent mieux. Les vigilances fonctionnent mieux. Et donc là, c'est ce qu'il faut vraiment tenir en termes de corde politique. C'est d'un côté atténuer les émissions de gaz à effet de serre, arrêter de prendre comme excuse que la Chine et les États-Unis font pas ce qu'il faut, parce que sur la partie sécurité routière, l'Europe a été un modèle. L'Europe a pu inspirer tous ses autres empires pour qu'ils puissent construire des véhicules qui sont sûrs et qui permettent de circuler en sécurité dans nos territoires. Donc il faut faire la même chose sur la prévention des risques majeurs. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, dans d'autres États et d'autres contrées, certains de ces États ne font pas ce qu'il faut, ne vont pas forcément dans le bon sens, qu'il faut nous abandonner cette course contre l'atténuation, évidemment atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Une fois que j'ai dit ça, je suis en train de donner un cours à des élèves ingénieurs. Il faut former des ingénieurs. Regardez à quelle vitesse les Anglais, les Allemands, les Chinois, les Américains, les Indiens, aujourd'hui, forment des ingénieurs. Il faut des ingénieurs pour pouvoir tenir de point de vue industriel aussi les défis qui nous attendent. Je vais pas faire d'angélisme.
Il faut de la compétence, c'est ce que vous dites.
Exactement. Quand vous vendez 110 rafales, et je ne remets, je fais pas d'angélisme, il faut se défendre, il faut dissuader. J'entends ça. Mais vous imaginez l'argent que l'on dépense dans l'armement aujourd'hui. C'est cet argent aussi dont on a besoin pour se défendre. Réellement, c'est une vraie guerre.
Vous avez raison, c'est des choix. C'est-à-dire qu'en plus, il n'y a pas tellement de débat sur l'armement, on met de plus en plus d'argent, mais peut-être qu'il faudrait amender, poser la question, est-ce que une partie de cet argent pourrait pas servir
aussi. Tout ça, c'est des décisions politiques, hein, donc on a les politiques qu'on mérite, excusez-moi. On n'est pas en dictature, ils ont été élus, donc bon.
Et là, les élèves que j'ai en ce moment avec moi, eh ben, ils partent en Martinique avec moi le mois prochain. Pourquoi? Parce que je tiens à ce que ces ingénieurs, ils puissent être conscients des faiblesses, mais aussi des forces que l'on a sur l'intégralité du domaine français, du territoire français. On est deuxième domaine maritime mondial, donc on a des capacités, on a des territoires qui nous permettent d'imaginer.
Gaël, concrètement, une mesure qu'on pourrait prendre qui n'est pas encore prise, une mesure?
Alors aujourd'hui, les exercices. Vous savez, on est souvent pris de court sur la partie évacuation. On a beaucoup de gens qui sont parfois réticents, qui étaient dans le logement, on peut le comprendre. Mais là où on est un peu encore défaillant, c'est sur la capacité des élus, des collectivités, mais aussi des citoyens à prendre les bonnes décisions, à avoir les bons réflexes. Et pour tous les risques, les risques sismiques, géologiques, les risques de feu, parce que là, on se parle d'inondation. Mais la Réole, par exemple, qui est inondée en ce moment, en 42 ans, j'ai regardé les arrêtés de catastrophes naturelles, en 43 ans, vous avez eu autant d'arrêtés de catastrophes naturelles pour des sécheresses que d'arrêtés pour des inondations. Et évidemment, avec toutes les déclinaisons derrière qu'il y a derrière, le feu des Corbières cet été. Donc, il faut vraiment travailler avec ces ingénieurs, avec ces ministères dont je suis un ancien serviteur, le CEREMA, Météo France, l'ONF. Ce sont vraiment des structures aujourd'hui où il faut qu'on regagne en ressources humaines. C'est pas la dynamique actuelle. On critique Trump, mais on a licencié, on a réduit les budgets, on a réduit aussi les effectifs de Météo France. Je suis pas sûr que politiquement ce soit la décision qu'il faille prendre,
d'accord,
compte tenu des enjeux que l'on a actuellement.
Gaël, vous êtes d'accord avec ce que dit Gaël Musquet sur le fait déjà il faut plus d'ingénieurs, plus de compétences, apprendre effectivement peut-être des exercices d'évacuation, plus de prévention,
mais
et faire ce qu'on a fait pour la sécurité routière, le faire
est-ce qu'il n'y a pas il est toujours en ligne?
Oui, tout à fait.
Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on ne peut pas sur le terrain creuser des canaux, élever des digues, prendre des mesures concrètes pour que les gens ne soient pas inondés, parce que exercer les élus à gérer des inondations, ok, mais le mieux ce serait quand même d'éviter que l'eau arrive jusqu'aux habitations. Est-ce qu'il n'y a pas des techniques quand même pour ça?
Alors il y en a eu, on a creusé des canaux, on a le canal du Midi, le canal de Provence, on a fait de grands ouvrages, on a fait des barrages, mais malheureusement aujourd'hui, si vous voulez, on est sur des phénomènes tellement intenses, imprévisibles, on n'a pas non plus énormément d'argent, tout ça coûte de l'argent, tout ça émet des gaz à effet de serre, et il faut avoir, et on le fait d'ailleurs, il faut avoir l'humilité, parfois, l'espèce humaine doit avoir l'humilité de partir de ces territoires qui sont invivables, économiquement déjà.
Donc il faudrait que les gens déménagent.
Oui, c'est ce qu'on fait au village de Miquelon. Vous regardez un archipel comme Miquelon, c'est 400 personnes, sur l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, vous avez 400 personnes qu'il faut faire déménager dans le village. Le village va déménager. Ça mettra 4, 5, 6 mandats de maire. Ça mettra 2, 3 générations. Mais pour que ces gens de ce village à Miquelon puissent vivre en sécurité, et c'est le cas en Guadeloupe aussi, c'est le cas à la Faute-sur-Mer, souvenez-vous, Xintia, pour que ces personnes puissent vivre en sécurité, il va falloir, parfois, c'est malheureux, mais c'est comme ça, déménager, avoir ce bon sens de battre en retraite et de préparer les territoires à être parfois dépeuplés pour repeupler d'autres zones qui permettent de vivre en sécurité.
On va tous aller dans les terres et à la montagne et fuir le littoral, si j'écoute Gaël. Merci Gaël Musquet d'avoir été avec nous. Yann est là aussi au 32-16 des Pyrénées-Orientales. Bonjour Yann.
Bonjour les grandes gueules, bonjour les GG.
Vous êtes du côté de Saint-Cyprien, voilà, pas très loin de Collioure.
Ouais, pas très loin de Collioure, exactement, exactement, sur la côte Vermeille, voilà.
Bah, voilà.
Donc, moi j'habite sur le littoral, donc je sais de quoi je parle. Il y a juste une chose que je voudrais reprendre, parce qu'à un moment j'ai entendu Barbara, quelqu'un disait, oui mais pourquoi les lotisseurs ils préviennent pas. Et à un moment, Barbara a dit non, les lotisseurs se cachent bien de le dire. C'est faux, parce que en fait, je vous explique, Barbara, le PLU, le plan local d'urbanisation, est un sujet du préfet et de la mairie. Donc moi, quand je fais une construction, que le client a trouvé un terrain ou que je lui trouve un terrain, je sais automatiquement les hauteurs que je dois respecter au vu des zones inondables. Par exemple, vous allez à Saint-Cyprien chez moi, où moi je suis dans le village, donc un peu en hauteur, où les vides sanitaires sont à 70, mais vous descendez à peine 4 km, donc il va y avoir un delta de 50 mètres, hein. On est obligé de faire des maisons à 1,20 m de vide sanitaire. Mmh. D'accord ? À Sainte-Marie, qui est un peu plus loin après Canet, on a des vides sanitaires à 1,20 m, à 1,60 m, à 1,80 m, selon les zones. Donc c'est pas les lotisseurs. Les lotisseurs de toute façon sont obligés de préciser, parce que c'est dans le quand on dépose le permis de construire, on doit montrer, marquer par rapport à telle zone. Bah tiens, on nous demande un vide sanitaire de 80 ou 100 ou 10 ou on peut faire qu'un radier, mais on est obligé de respecter, parce que de toute façon sinon le permis n'est pas accepté. Alors après, qu'il y en ait qui aient des validations de complaisance, bah, là, le problème, ils ont qu'à s'en prendre qu'à eux.
Ça existe aussi, Yann. Alors, réponse de Barbara.
Non, mais ça existe. Mais par ailleurs, excusez-moi, aujourd'hui, des vides sanitaires d'un mètre 80 ou plus, il faut d'abord poser aussi la question de est-ce qu'il y a vraiment nécessité de construire à cet endroit-là ? La question, elle se pose aussi. Donc, ce que disait précédemment Gaël Musquet, qui, je crois, n'allait pas contre ce que j'ai expliqué, concernant notamment la cause qu'est le réchauffement climatique et le fait qu'on y pourra rien, les pluies vont continuer à être intenses et soudaines, qui plus est sur des sols soit artificialisés, soit secs. À un moment donné, je crois que l'être humain, qui en grande partie est le responsable de la situation, doit prendre ses responsabilités, et on va pas décider qu'on construit partout, quitte à mettre des vides sanitaires à 1,80 m. Moi, je pense qu'il y a des endroits, faut arrêter de construire. Et quand tout à l'heure Guillaume Musquet expliquait, il y a même des endroits où il faut retirer des habitants. Bah oui, je suis désolée. Ouais, il y a un moment, on peut pas continuer à croire évident, qu'on est plus fort que tout, y compris plus fort que la pagaille qu'on a mis dans l'atmosphère.
Sauf que tout le monde
veut
vivre au bord de la mer et au bord des rivières.
Voilà,
c'est aussi
surtout
ça,
à Saint-Cyprien.
Alors merci à tous. La consultation sur le réseau social des grandes gueules, le compte X, doit-on s'y habituer à ces crues généralisées ? Vous dites oui à 78,4%.
Bah oui, les gens sont plus raisonnables que Bruno et Barbara.
Allez, on file à Bormio.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
On file à Bormio en Italie pour les JO d'hiver Milan-Cortina, parce que ce matin on suivait la descente, le slalom homme, et c'est Clément Noël, champion olympique en titre, qui disputait ce slalom. Alors la course est terminée, je crois. Léna Marjac, qu'a-t-il fait ?
Alors la première manche n'est pas encore terminée, mais effectivement nos Français sont passés. C'est le cas effectivement de Clément Noël, malheureusement dans des conditions assez difficiles avec ce brouillard et cette neige qui tombe, et une grosse erreur de Clément. Il est à 2 secondes du leader pour l'instant de cette première manche. Il reste une deuxième manche, donc tout est possible encore tout à l'heure. Ce sera à partir de 13h30, mais c'est évidemment pas le scénario qu'on espérait pour l'ensemble de nos Français, parce qu'au-delà de Clément Noël, Paco Rassa était également en lice, celui qui a gagné 2 coupes du monde cette année, et c'est un abandon pour lui après quelques portes. Steven Amier, lui, pointe à 4 secondes du leader, le Norvégien Atle Magouave. Donc voilà, le résultat pour l'instant global de la première manche pour nos Français n'est pas satisfaisant, mais il reste une deuxième manche et tout est encore possible.
Merci Léna Marjac, qui nous fait vivre les JO et RMC. C'est toute la journée, les JO d'hiver Milan-Cortina, et on espère que les slalomeurs vont se ressaisir pour cette deuxième manche. Dans un instant, c'est le grand débat de cette fin de quinquennat, la fin de vie. Bah oui, les choses se sont peut-être liées. Emmanuel Macron va tout prix une loi sur l'euthanasie d'ici la fin 2027, enfin la fin de son quinquennat.
Ce sera chouette jusqu'au bout avec lui.
Oui, mais c'est un sujet quand même concernant l'euthanasie. Est-ce qu'il faut effectivement légaliser l'euthanasie ? Eh bien, on va vous poser la question 32-16 et on va poser la question aux grandes gueules. À tout de suite sur RMC, RMC Stories.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules avec autour de la table aujourd'hui Charles Consigny, Barbara Lefebvre et Bruno Poncet. N'oubliez pas que jeudi, nous partons à Marseille, première étape de notre tournée des municipales Marseille. Jeudi, on sera au Palais de la Bourse, 9 rue de la Canebière. C'est ouvert au public, les places sont limitées, donc à vous de vous inscrire. Il y a une adresse mail, vous envoyez un petit mail à public@rmc.fr, public@rmc.fr. Vous vous inscrivez, vous aurez toutes les infos et on se retrouve à Marseille à 9h jeudi près de la Canebière. On va maintenant parler du grand projet de cette fin de quinquennat d'Emmanuel Macron et du Bloc central faire passer une loi sur l'aide à mourir, sur l'euthanasie. Ah, je sais, le sujet n'est pas léger, mais pardon, c'est la volonté présidentielle, terminer son quinquennat avec la création d'un droit à l'aide à mourir. Alors, on ne dit pas euthanasie, le mot est tabou, mais enfin, c'est à peu près la même chose. En tout cas, l'Assemblée se penche à nouveau sur le texte. Un vote est censé se faire ensuite, ça repartira au Sénat. Alors, on verra si le temps est respecté, le calendrier est respecté. C'est une loi qui est portée notamment par le député Modem Olivier Falorni. Est-ce que vous la souhaitez? Est-ce qu'effectivement il y a urgence à légiférer sur l'euthanasie, Barbara Lefebvre?
L'urgence, elle est à développer les soins palliatifs. Les unités de soins palliatifs aujourd'hui en France, c'est la solution. Et toutes les personnes qui sont confrontées, hélas, à ce moment difficile d'un proche qui a une maladie grave, incurable, etc., le disent, tous ceux qui ont pu bénéficier des centres d'hospitalisation de soins palliatifs disent que c'est la solution. La solution, c'est pas le suicide assisté, parce que une personne est libre de se suicider. Une société ne peut pas suicider quelqu'un. Je suis désolée.
Sauf et si le cette corps médical, personne, par exemple, a une maladie qui l'empêche le faire.
Eh ben, c'est ce que j'allais.
Passer à l'acte.
J'allais poursuivre. Le corps médical ne peut pas non plus être celui, d'abord c'est même interdit par le serment d'Hippocrate, ne peut pas être celui qui suicide quelqu'un. Aux États-Unis, il y a un certain nombre d'États où la personne peut recevoir, parce que c'est suivi par des médecins, etc., va recevoir l'équivalent d'un poison qu'elle va pouvoir décider de prendre à un moment qui sera le moment où elle a encore la possibilité d'agir sur elle-même et d'avoir ce moment de décision qui lui est propre, qui est celui du suicide. Les médecins sont présents à ses côtés, mais ne lui administrent pas le poison. C'est la personne elle-même qui doit le prendre et qui doit être en pleine conscience pour le prendre. Aujourd'hui, demander à la médecine de prendre cette place-là, je trouve que c'est un bond anthropologique qui est absolument stupéfiant. Et surtout, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aux États-Unis, les études ont montré qu'entre 35 et presque 50% des patients qui avaient reçu le poison ne l'ont finalement pas utilisé au moment où ils auraient pu l'utiliser, et ont finalement poursuivi vers des soins palliatifs. Donc, aujourd'hui, on a un lobby en France, notamment autour de M. Falorni et d'autres groupes, qui nous expliquent que c'est un progrès de demander à la société, c'est-à-dire au corps médical, de suicider des gens. Moi, je trouve que quand on regarde les dérives au Canada, les dérives en Belgique, qui sont en train d'étendre et d'élargir le cercle. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit que ça sera que certaines maladies dans certaines circonstances. Aujourd'hui, vous avez en Belgique des gens.
C'est un droit qu'on donne à certains.
Oui. T'es pas obligé. Oui, mais en Belgique et au Canada, on a observé qu'il y a eu un élargissement au point qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont trentenaires avec des dépressions nerveuses extrêmement graves et qui demandent le suicide assisté à 35 ans parce qu'ils ne se sortent pas de leur dépression. La situation, anthropologiquement, c'est très grave. Et que M. Macron finisse son mandat sur ça, ça en dit vraiment long sur sa vision de ce qu'est le progressisme.
En Europe, il y a plusieurs pays qui ont légalisé l'euthanasie.
La Suisse.
Donc il y a le Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, la Suisse, l'Espagne a voté une loi en 2020 et le Portugal en 2023. Tu as cité également le Canada. Charles.
Barbara craint que ses élèves ne demandent la procédure, c'est ça.
C'est-à-dire qu'il y aurait. Je prépare, je le ferai moi-même. J'ai pas besoin de quelqu'un.
Il y aurait plus beaucoup d'élèves dans la classe de Barbara, malheureusement.
Mais moi, je suis très sérieuse. Je le ferai moi-même. Je demanderai pas à un médecin de le faire à ma place.
Oui, mais si t'as la maladie,
que je l'ai prévu dans
ma tête. La maladie de Charcot, par exemple.
Justement, je l'ai prévu dans ma tête. Moi, j'ai prévu, si jamais on m'annonçait une maladie invalidante neurodégénérative, je n'ai pas l'intention d'attendre jusqu'à un certain point. Je pense que oui, je me débrouillerai d'une façon ou d'une autre, et tu peux toujours te débrouiller d'une façon ou d'une autre. Oui, moi, c'est quelque chose que j'ai dans ma tête, mais je ne demanderai pas à un médecin, au corps médical, et encore moins à ce que la loi inscrive ça. Je n'arrive même pas à comprendre.
Alors, Charles,
c'est un sujet qui est très compliqué, qui effectivement est un peu déprimant pour une fin de quinquennat s'agissant du jeune Macron. Je pense qu'il aurait pu trouver un autre cheval de bataille. Moi, j'ai écouté les...
Parce qu'il pense qu'il y a sans doute un consensus à l'Assemblée nationale pour faire passer ce texte. C'est plus difficile de faire voter un budget en ce moment à l'Assemblée que de faire passer l'euthanasie.
Oui, mais bon, symboliquement, c'est quand même fort. Ouais. J'ai écouté les mises en garde de Philippe Juvin, qui est venu à ce micro dire toute son hostilité à ce texte qui, selon lui, prévoit un système beaucoup trop simple et qui amène vers des euthanasies sans beaucoup de précautions, selon la lecture qu'il fait du texte qui doit être
débattu
à l'Assemblée. Philippe Juvin, qui est médecin, qui
les
travaille
médecins
à l'hôpital.
Sont en général très opposés.
Alors, son nom est cité pour le ministère du Budget. Donc, peut-être que si Philippe Juvin devient ministre du Budget, il aura moins de prévention sur la loi.
À mon avis, c'est prévention contre la loi pour qu'il ne sera pas ministre.
J'espère que son éthique professionnelle primera.
Oui, mais la politique a ses règles propres.
Pas d'éthique.
Et donc,
on va pas faire son procès d'intention.
Non, mais justement, moi, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qu'il a dit.
Il en a remis une louche ce week-end dans la presse aussi.
Je pense que cette loi, elle doit être amendée. Le risque, c'est quoi? Comme il l'a bien expliqué, le risque, c'est que quand vous êtes une personne âgée, très âgée, dont on s'occupe mal parce que vous êtes dans un mauvais EHPAD ou etc.
Parce qu'il y a, ça coûte cher.
Le risque, c'est qu'en fait, votre dégringolade s'accélère et finalement, vous êtes tellement déprimé et dans un état tel que vous finissez effectivement par avoir envie de mourir. Et en fait, donc le risque, c'est quoi? C'est qu'on débranche joyeusement les personnes âgées parce que en fait, on n'arrive pas à s'en occuper. Pour moi, c'est ça le problème.
Il allait même plus loin. Il disait que ça crée de la discrimination sociale, c'est-à-dire
c'est
que
évident.
Ceux qui ont les moyens d'être bien pris en charge dans des EHPAD, etc., et d'être accompagnés, et en revanche, les plus pauvres seront les premières victimes de l'euthanasie.
Ça me paraît l'évidence même.
Oui.
Stéphane, alors Bruno, avant de te donner la parole, il y a Stéphane qui vient de nous appeler. Et Stéphane, il a une expérience personnelle puisqu'il a vécu le suicide assisté de son père en Belgique. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour l'équipe.
Merci de nous avoir appelé. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Donc mon père était atteint d'une maladie neurodégénérative, une chorée de Huntington.
Il avait quel âge?
Il avait 62 ans au moment de sa mort. Il a développé les symptômes. Il faut savoir qu'à 60 ans, il s'est retrouvé en maison de retraite. Ça a été très difficile à vivre en plein Covid après, en plus. Donc,
quels étaient les symptômes physiques?
Des tremblements, ça c'était les premiers signes, mais après, il s'est très vite dégradé pendant le Covid. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant avec des couches, ce qui était très, c'était un déshonneur pour lui, quoi.
Et donc, il a émis le souhait d'en finir.
Il avait toujours été au clair avec ma mère là-dessus. Voilà, il évoquait. J'aurais pu emmener n'importe lequel d'entre vous de l'équipe là-bas. Il serait présenté, il aurait dit « Salut, je suis Francis, j'ai envie de mourir. »
D'accord. Et alors, comment ça s'est fait ensuite? Donc, comme ce n'est pas possible en France, vous êtes parti en Belgique.
Oui, il faut savoir, ma mère s'était renseignée un peu partout. La Suisse, il faut savoir que ça coûte 10 000 euros. Luxembourg, ça dure un an. La Belgique, il a fait un entretien. Je tiens à préciser que ça a été remboursé par la sécurité sociale française.
Ah.
Il faut le savoir. Nous, ça nous a coûté 25 euros. Même le taxi était remboursé.
Et donc, c'est étonnant parce que c'est interdit en France, mais c'est remboursé quand on le fait en Belgique.
C'est comme
Je vous assure, c'était marqué consultation pour euthanasie. Hein.
Ah ben, j'apprends quelque chose, je ne savais pas ça.
Ça nous a coûté 25 euros.
Et comment ça s'est passé avec votre père et vous-même, comment vous l'avez vécu?
Ben, moi, je l'ai plutôt bien vécu. Ça a été, bien sûr, très difficile. Mais en fait, moi, 15 jours avant l'acte, moi, j'étais au clair avec mon père. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et ça, c'était très important. Ça n'a pas été brutal. Mon père, moi, j'ai une photo de lui 10 minutes avant. Il a un sourire. Il est fier et digne. Il est parti comme ça, quoi. Et pour nous, famille, ça a été beaucoup plus facile aussi, quoi.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, Stéphane, chaque histoire est spécifique et personnelle. La question, justement, c'est une question d'éthique à la fois individuelle, c'est ce que vous évoquez ici, mais il y a aussi une éthique collective. On fait partie d'une société. Dans une société, est-ce qu'on demande à la médecine, non pas de soigner et de soulager comme ils le font dans les soins palliatifs,
oui, mais c'est pas si simple.
Mais est-ce que l'on demande de donner la mort? C'est pour ça que je donnais l'exemple.
C'est pour ça que je donnais
l'exemple des États-Unis où c'est le patient lui-même. C'est le patient lui-même qui prend le poison et non pas un médecin qui le lui donne ou qui le lui injecte. C'est tout ce que je dis. Voilà.
Il a eu le choix jusqu'à la dernière seconde. Le médecin, en préparant l'injection, quand elle a été mise dans le caté, il lui a bien demandé « Est-ce que vous êtes sûr ?» Mon père, il a dit « On y va ». Tu disais avant que toi, tu le ferais personnellement, mais c'est quoi l'idée de... combien il y a de personnes qui se suicident à domicile?
Il y en a beaucoup, mais justement, ce n'est pas documenté.
Pour les familles.
Il y en a beaucoup, c'est pas documenté, parce que justement, oui, vrai, il y a énormément de gens qui se suicident à domicile avec tous les morphiniques, etc., qu'on leur donne. Il y a aussi des médecins.
Mais c'est très violent aussi, parce que c'est la famille qui constate en général qui est la première à arriver sur place.
Donc en fait, vous voulez que ce soit la société qui le fasse. Vous voulez que cette violence-là, elle soit exercée par le corps médical. Demandez aux médecins. Tous les médecins spécialistes de la fin de vie, c'est-à-dire les médecins spécialisés en soins palliatifs, sont opposés
Sauf
à cette loi.
Barbara, tu sais très bien que chaque jour dans les hôpitaux, il y a des médecins qui donnent la mort.
Ils ne donnent pas la mort, c'est des soins palliatifs, ils ne donnent pas la mort.
D'accord, on appelle ça comme tu veux, mais la frontière est assez grise.
Non, la frontière n'est pas grise, je l'ai connue moi aussi, tout le monde autour de cette table l'a connue. Je l'ai connue, j'ai vu sur ma grand-mère, donc arrêtez aussi.
On l'a tous connue et on sait très bien qu'à un moment donné, le médecin te fait comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix et que voilà, Bruno.
L'histoire de Stéphane est très émouvante. Moi, je pense pas que ce soit l'urgence aujourd'hui, mais il faut quand même le faire parce que il est quand même important d'avoir ça dans notre arsenal de solutions pour.
Toi, tu es pour, toi.
Moi, je suis pour parce que moi, mon père est mort comme ça. En fait, moi, ma mère m'a toujours expliqué qu'en fait, mon père, les médecins avaient dû un peu l'aider parce que il avait une sclérose en plaques et à la fin, comme on disait vulgairement, il était comme un légume. Et donc, à 36 ans, ils l'ont. Je crois que ma mère, ce qu'elle m'avait expliqué, mais à 36 ans, ils l'ont un peu aidé à partir parce que de toute façon, il n'y avait plus du tout d'espoir pour quoi que ce soit. Et moi, je pense qu'il faut le faire. Et je pense pas parce que demain, tu auras cette loi, ou en tout cas, une possibilité de le faire, que demain, tu auras des milliers de personnes qui vont pouvoir en bénéficier. C'est surtout que ça évitera peut-être à Stéphane ou à d'autres personnes de sa famille d'aller en Belgique. Et puis, Stéphane l'a très bien dit. Moi, mon père est mort, il n'est pas mort chez moi, mais au départ, était prévu qu'il meure chez moi au fur et à mesure que ça se dégrade. T'as pas envie de ça. T'as pas envie de voir la personne mourir chez toi en dégradant. Donc en fait, si tu peux faire ça dans un cadre médical avec des gens autour de toi et avec une certaine conscience de tout le monde, moi je trouve ça nettement.
Ça s'appelle les soins palliatifs. Il y a une médecine spécialisée là-dedans. C'est les soins palliatifs.
Une question, Stéphane. C'est une injection.
Tous ceux qui en bénéficient le disent que les soins palliatifs.
C'est le même principe qu'une anesthésie. En fait, on va te demander de compter jusqu'à 10. Lui, il a compté jusqu'à 3. C'est propre, en fait, c'est propre. Moi, je travaille dans le monde des secours depuis toute ma vie. J'en ai vu des suicides, c'est affreux. Là, c'était propre, vraiment.
On va continuer d'en parler. Merci en tout cas, Stéphane, de nous avoir appelé pour nous raconter l'histoire qui est bien sûr forcément douloureuse à faire partager, mais c'est intéressant. Il y a beaucoup d'appels au 32-16, c'est un sujet forcément très concernant. Donc, Anthony est déjà avec nous. On continue. À tout de suite.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
La suite des Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, le débat sur l'euthanasie, la fin de vie revient à l'Assemblée nationale, c'est une volonté présidentielle d'aller vite là-dessus. Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée également, avec les députés macronistes, mais pas seulement, voudrait rapidement faire adopter une loi qui va créer un droit à l'aide à mourir. Alors c'est un vrai débat, au Sénat ils sont contre, à l'Assemblée plutôt pour. Est-ce qu'il faut effectivement légaliser comme le font d'autres pays comme la Belgique par exemple, l'Espagne, le Portugal ou encore le Canada. Après le témoignage qu'on a reçu à un instant qui était très fort, Anthony voulait également prendre la parole au 32-16. Bonjour Anthony.
Oui, bonjour.
Vous avez vous aussi vécu une expérience d'euthanasie avec votre père. Ça s'est passé en Suisse, c'est ça?
Oui, alors en Suisse c'est un suicide assisté en fait.
C'est-à-dire, quelle est la différence entre... Parce que il y a beaucoup de termes utilisés. Alors, euthanasie, d'ailleurs, c'est un terme un peu tabou, parce qu'on n'utilise pas, mais quelle est la différence entre suicide assisté et euthanasie?
Alors, l'euthanasie, c'est le corps médical qui vous injecte un produit létal, un puissant anesthésique à une dose létale. Et le suicide assisté, c'est le malade, on va dire, ou la personne qui fait ce geste. On lui met à disposition les moyens de mourir.
C'est lui qui administre le produit.
C'est lui qui s'administre le produit, tout à fait.
D'accord. Et c'est ce qui s'est passé avec votre père?
Oui, avec mon père, il y a 5 ans, il avait une maladie neurodégénérative et nous avons fait ce process à sa demande, c'était sa volonté. Et on s'est concerté en famille et c'était naturel pour nous de suivre sa volonté jusqu'au bout, de partir dignement et entre guillemets, c'est pas beau à dire, mais proprement, voilà, parce que.
Et comment ça s'est passé le jour J? Vous étiez là vous aussi?
Oui, oui, on était là. On était ma mère, mon frère et moi, et un ami également. Et on a fait un process, on arrive et ils lui mettent une voie intraveineuse et ça s'arrête là. Après, c'est lui qui tourne la molette de la perfusion.
Et donc, il y a un produit qui est injecté dans son corps et le décès intervient tout de suite ?
En 30 secondes. Il s'endort quasiment instantanément, mais il s'endort en fait. Il part paisiblement.
Donc vous l'avez vu partir
dans nos bras, oui.
Mais c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que comme aux États-Unis, c'est la personne elle-même qui s'administre le poison. C'est du suicide assisté. Oui. Ce n'est pas la même chose que ce que la Macronie veut nous faire passer pour un grand progrès de l'humanité, qui est que la médecine, le corps médical, soit à la fois celui qui soigne et qui guérit et celui qui donne la mort. Donc moi, je suis navrée, je reste sur ce que je dis. Et c'est pas non plus la propagande permanente de la Macronie qui nous explique que c'est le progrès, tout comme nous avoir expliqué que la PMA pour les femmes seules, c'était le progrès. Tout ça pour après venir nous écrire des lettres sur il faut la prise de conscience des parents et le père doit prendre sa part. Donc, je veux dire, tout n'a plus aucun sens avec la Macronie. Par-dessus tête.
Ce qui se passait, Anthony, est-ce qu'il y a des médecins à ce moment-là, non ?
Oui, c'est un médecin qui encadre la chose. Après, si je peux me permettre, je comprends votre réaction, mais je pense que c'est un problème qui dépasse la Macronie ou que ce soit, parce que...
D'ailleurs, lui, Falorni n'est pas spécialement macroniste.
Moi, je veux dire, je suis infirmier en psychiatrie. Et toute ma carrière, j'ai vu des gens qui, alors je les vois pas quand ils sont morts, je les vois quand ils ont essayé de mettre fin à leur jour. Et c'est pas forcément très propre. J'ai pas de jugement à porter à ce que c'est légitime ou pas. Mais je trouve que ce qui est important, c'est que pour un pays qui se veut les droits de l'homme, je pense qu'avoir le choix
de sa mort,
de décider de partir dignement, peu importe que ce soit une euthanasie ou un suicide ou peut-être autre,
Et justement, Anthony, vous êtes infirmier. Mais vous êtes infirmier. On part dignement quand on est pris en charge en soins palliatifs. C'est même le sommet de la dignité, les soins palliatifs.
C'est sur le papier, mais c'est pas toujours le cas dans la réalité, malheureusement.
Mais la réalité, elle est toujours différente selon chacun. La vie n'est jamais complètement propre. La mort n'est jamais complètement propre. Ce qui, moi, m'inquiète, si vous voulez, c'est une société qui veut tout assainir, tout hygiéniser. Il faut que tout soit. Alors, et on y met des mots. La dignité. Alors évidemment, qui va être contre la dignité ? Personne n'a envie de mourir dans l'indignité. Moi, j'ai pas envie de mourir comme un légume, etc.
Régulièrement.
Mais on peut pas faire des lois générales sur des questions qui sont des questions aussi essentielles que la question de la vie, que la question de la mort. D'ailleurs, regardez, même quand sur la question de la vie, à chaque fois qu'on soulève cette question-là, quand il a été question de la constitutionnalisation de l'avortement, si on disait que c'était pas la peine de constitutionnaliser sans être opposé à l'avortement, on vous faisait passer pour une fasciste. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un espèce de discours progressiste qui veut mettre des mots qui sont des mots consensuels sur des actes qui eux ne le sont pas, qui sont pas consensuels parce qu'encore une fois, ça fait heurter l'éthique personnelle et l'éthique collective.
Ce qu'a vécu Anthony aussi, moi je comprends.
Une société, un individu, c'est pas la même chose.
Je pense que les gens qui peut-être ont décidé de mourir ne veulent pas que ce soit leurs proches qui soient obligés de subir ça. Moi, je connais une personne qui accompagnait son papa dans ses derniers moments. Ça a duré presque un an. Mais qui veut vivre ça en fait ? Et la personne qui est là pour aider, elle, malheureusement, elle fait ça parce que c'est son père ou quelqu'un de proche. Et puis la personne qui est malade, elle
on
voit son enfant.
C'est un poids en fait.
Bah c'est un poids. Et donc en fait, à un moment donné, tout le monde est malheureux. Alors
tu
que là,
pas
effectivement, tu généralises tout. T'as pas, t'auras pas raison sur ce sujet de toute façon parce que c'est ton avis à toi et ton avis représente que ça.
Et ton avis, il a forcément raison.
Mais non, moi je suis comme lui. Et moi je pense que comme vient de dire. Bien dire l'auditeur, c'est qu'à un moment donné, faut avoir le choix. Et le choix, c'est ça. C'est pas uniquement dire demain, t'ouvres ça et t'as des millions de gens qui vont vouloir suicider. C'est pas
ça l'idée. Parce que justement, c'est ce que dit le professeur Juvin et ce que disent beaucoup d'autres, c'est que ce seront les plus faibles.
Chacun son avis, en fait.
Les plus faibles et les. excuse-moi, je ne fais que retranscrire l'avis de certains. Les plus faibles et les plus pauvres surtout les familles pousseront un malade ou pousseront un membre de leur famille, une personne âgée, en lui disant mais tu penses pas que ce serait mieux, regarde, etc.
Mais
il n'y aura pas de garde-fous, tu auras de l'abus sur personnes vulnérables, mais bien sûr.
Il faut mettre des garde-fous, d'ailleurs, c'est ce que.
Mais les garde-fous, ils ont tous été dépassés au Canada, notamment.
Je ne sais pas si vous avez vu les députés à l'Assemblée. Cet excellent film qui s'appelle Soleil vert, qui est un vieux film de science-fiction. Mais qui anticipe bien, je trouve, la question de l'euthanasie, puisque en fait les gens passés un certain âge, on les flèche gentiment vers un petit circuit où ils vont avoir une vidéo retraçant les moments heureux de leur vie, et puis on les débranche. Et effectivement, souvent la science-fiction n'est que l'anticipation.
Alors,
hein.
Je voudrais remercier Anthony, il nous reste 2 minutes, je voudrais qu'on écoute Yann qui vient de nous appeler. Yann, il est malade. Bonjour Yann.
Bonjour.
Vous nous appelez de Bretagne, du Finistère. Vous avez un cancer en phase terminale, c'est ça?
Oui.
Vous avez quel âge? 43 ans?
Tout à fait.
Et vous souhaitez avoir bénéficié de cette aide à mourir?
Exactement, moi ça fait plusieurs années que je me bats contre la maladie. Là, malheureusement, début d'année, m'a été annoncé le fait qu'il me restait entre 9 et 12 mois à vivre. Et là, je suis dans la phase de la gestion de la souffrance, donc la gestion de la souffrance au quotidien, la gestion des symptômes. Et je pense que effectivement, j'ai entendu une discussion tout à l'heure sur le fait de se suicider à domicile. C'est quelque chose que j'ai déjà pensé, honnêtement. J'y pense encore régulièrement parce que la douleur, quand on la vit au quotidien, c'est juste insupportable.
Et cette douleur, on n'arrive pas à vous la soulager?
Bah, je suis sur morphine matin et soir de façon importante. J'ai peut-être d'autres traitements à venir, mais malheureusement non. Alors peut-être reprendre de la radiothérapie ciblée, c'est des pistes que j'attends avec l'oncologue, mais c'est rien de faramineux. La douleur va aller en s'empirant au fur et à mesure. Et la gestion de la douleur pour les personnes malades, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué.
Bien sûr, et vous savez que cette douleur va être plus forte dans les semaines et mois à venir, c'est ça? Et c'est
exactement
cette crainte.
Ouais.
Et vous n'avez pas un parcours vers les soins palliatifs?
C'est des discussions que j'ai avec l'oncologue. Il y a plusieurs options, mourir à la maison, mourir en hôpital, mourir en unité palliative. Les discussions sont là-dessus. Pour l'instant, rien n'est encore défini totalement, mais c'est vrai que moi, si à un moment donné, je peux avoir le choix et que cette loi pouvait passer, je pense que je préférais décider de quand je vais mourir que de continuer à souffrir.
Parlez avec votre famille, avec vos proches?
Oui, tout à fait. Ouais. J'ai des discussions avec mon frère, notamment. Les enfants, pas encore totalement, ils sont un peu jeunes. Mais oui, il va falloir que j'ai ces discussions avec eux, c'est certain.
Et vous pensez que vous avez besoin de la loi pour ça, pour prendre cette décision, vous avez besoin de la loi?
Ça m'embêterait d'aller à l'étranger pour le faire. Alors j'ai la chance, j'ai la nationalité canadienne aussi, donc je suis franco-canadien. J'ai vécu 7 ans au Québec, donc je pourrais aller au Canada, ça j'ai tout à fait possibilité de le faire. Mais j'aimerais autant que ça soit fait en France.
Oui, c'est difficile de commenter ce que vous nous dites. Hein.
Non, mais ça montre,
vous souhaite beaucoup de courage.
Ça montre en tout cas
que c'est une question.
Qu'il y a des lacunes dans la loi française. C'est quand
la
même
lacune,
là ce que nous explique.
La lacune, c'est qu'il n'y a pas de soins palliatifs en suffisamment grande quantité pour répondre aux besoins. Voilà, parce qu'en soins palliatifs, c'est cet accompagnement-là.
Yann, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci d'avoir appelé.
Merci.
On a bien sûr demandé à ceux qui nous écoutent ce qu'ils en pensaient. Est-ce que c'est une urgence? Faut-il légiférer rapidement sur l'euthanasie? Et qu'est-ce que vous répondez? Eh bien, vous dites oui, enfin, 61%. De toute façon, les Français, dans tous les sondages, sont favorables à une loi sur l'aide à mourir. Dans un instant, on va accueillir notre invité. Vous allez voir, c'est assez sulfureux ce qu'il a écrit, Fergan Azihari, l'islam contre la modernité. Il a des arguments, on va les écouter face au GG. Et puis, on reviendra également sur la mort du jeune Quentin avec celle qui a organisé le rassemblement pour manifester contre la venue de Rima Hassan, Alice Cordier, du collectif Némésis. Puisque Quentin faisait partie de ce collectif, on en parlera avec elle aussi dans la dernière partie des Grandes Gueules. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.